Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors cette semaine, nous allons passer une nouvelle fois ce quart d'heure avec Rachid. Alors Rachid, je préciserai qu'elle s'appelle Marguerite Emery de son vrai nom, qu'elle est née à Château-l'Évêque. En 1860, elle est mariée avec Alfred Valette, écrira ensemble Le Mercure de France, où elle tiendra une chronique littéraire. Romancière, elle publiera une centaine d'ouvrages relatant bien souvent une perversion sexuelle. Citons par exemple La virginité de Diane, La marquise de Sade, Madame Adonis, L'animal, Léonature, La maison vierge, Le château des deux amants, Refaire l'amour, L'homme au bras de feu, L'autre crime, L'Amazone, La fille inconnue, etc., etc. Il y aura également un roman plus périgourdin, Les Rajacs. Alors, il est publié par Ernest Flammarion en 1921. Alors, cette histoire romancée est un peu son parcours. Il se divise en trois parties. Alors, sous le Second Empire, le capitaine Rajac, emprisonné pour insubordination, sera libéré par sa femme qui montera à Paris accompagnée de son père et de sa fille, donc Rachid, elle-même rencontrée Napoléon III qui adoucira sa peine pour un duel d'honneur, combat qu'il ne fera d'ailleurs que blessé léger. Puis il y aura la mobilisation de 1870, le siège de Metz, et enfin la vie au croc, intitulée « L'éducation d'une fille au début de la Troisième République ». Cette fille a 15 ans. Et en réalité, elle est la vraie maîtresse de maison. Sa mère veut la marier et organise un bal masqué avec le futur fiancé. Mais la soirée est perturbée par les hurlements d'un loup. Le colonel Rajac, lieutenant de louveterie, se lance à cheval à sa poursuite avec ses invités masculins et sa fille, qui est une bonne cavalière. Il paraît qu'elle tirait très bien à l'épée et au pistolet. Voilà. Alors, la fin de cette histoire, je vous laisse découvrir en lisant Les Rajacs qu'on peut trouver. C'est peut-être pas réédité, mais je pense que les bouquinistes doivent avoir ce livre. Alors, Rachid, en 1898, avec Valette, participe à la constitution du phalanstère. Alors, le phalanstère, c'est un exemple de vie communautaire, mais qui ne durera, je crois, pas plus d'un an. Ensuite, le couple achète une villa au bord de la Seine, où Alfred Jarry les rejoindra souvent. Alors, inventeur de la pataphysique, science des solutions imaginaires, Jarry décède en 1907. Les Valette refuseront le legs du tripode, cabanon sur pilotis que l'auteur du Père Ubu avait construit à Corbeil pour se reposer et pêcher. Alors, Jarry, comment je pourrais dire, alors, il est auteur d'un livre intitulé « Le surmal ». Alors, Rachid, en souvenir, lui consacrera un ouvrage intitulé « Alfred Jarry, le surmal de l'être ». Et ce livre paraîtra en 1928 avec une préface d'Albert Valette, d'Alfred Valette, pardon, aux éditions Bernard Gasset. Et en voici le début, « Alfred Jarry ou le surmal de l'être ». La première fois que je vis cet étrange personnage qui se jouait à lui-même la comédie d'une existence littéraire poussée jusqu'à l'absurde, ce fut dans le salon du Mercure de France de la rue Léchaudet-Saint-Germain, un grand salon d'une obscurité rouge et une petite rue étroitement sombre où sont passées pourtant tant toutes les lumières de la littérature de notre époque. La scène est encore présente à mon imagination, laquelle imagination enregistre à la façon photographique les moindres détails d'un incident qui l'a frappé. Recevant des gens tous les mardis, des hommes de lettres, les uns très bohèmes, les autres arrivés ou arrivistes, de pauvres gens de génie ou d'amateurs trop riches pour avoir du talent, je m'étais résigné, ne voyant presque pas de femmes, au rôle de la simple verseuse de thé, parlant peu, écoutant beaucoup, m'amusant toujours, ne comprenant jamais ce que voulait bien comprendre, à tel point qu'un Oscar Wilde put dire de moi cette énigmatique créature en robe de laine noire, a-t-elle écrit vraiment Monsieur Vénus ? Monsieur Vénus, on le retrouvera, c'est son livre, je pense, le plus solide, le plus connu, et qui est souvent réédité. Alors pour s'en convaincre, alors je reprends la lecture, il faut causer très longtemps avec elle et alors on ressent une gêne qui vous conduit au respect de son inexplicable bourgeoisie. Alors c'est l'opinion d'Oscar Wilde. Ce mardi-là, de bonne heure, devant que les chandelles ne fussent allumées, j'avais posé sur les poignets d'une très jeune poète de province, un écheveau de soie, que je dévidais car je brodais souvent durant les discussions âprement techniques sur les autres, sur un autre canevas, celui des controverses de ces messieurs du symbole. Le poétoro, dont je veux avoir oublié le nom, parce que je n'ai pas l'habitude de comprendre mes hôtes quand ils attachent une certaine importance à ne pas être compris, sortant à peine du collège où il avait connu, disait-il, le phénomène qu'on allait me présenter. Un nouveau venu entra donc avec l'allure d'un fauve qui redoute l'exercice qu'on va lui faire faire en public. J'ai tout juste le temps d'entendre mon mari me dire « Alfred Jarry » et de répondre par une salutation plus ou moins banale qu'Alfred Jarry, d'un geste violent, arrachait les chevaux de soie des poignets du jeune poète et le jetait par terre en grondant, d'un accent bizarre martelant les syllabes comme les dents d'un engrenage rouillé. « Idiot, pourquoi ne pas filer au rouet ?» Voilà. Alors, je vais arrêter là la lecture donc, de ce livre Alfred Jarry, ou le surmal des lettres, donc, par Rachid. Alors on va continuer un petit peu. En 1930, elle publie au Mercure de France Portrait d'homme, parmi lesquels figurent Alfred Ballette, son mari, et Léon Blois, qui je crois avait terminé une lettre qui lui était adressée, donc à Rachid, de par ces mots, madame, j'ai bien l'honneur de ne pas vous saluer. Voilà, ce qui était tout à fait, comment je pourrais dire, dans la pensée de Léon Blois. Et alors, elle le traite d'ailleurs. Dans ce livre Portrait d'homme, Léon Blois, l'ange exterminateur. Voilà le début de ce texte. Il me plairait de démontrer la candeur de cet homme terrible, de l'auteur du Mendiant ingrat, car on l'a successivement mal connu, trop connu et méconnu. Cet homme taillé dans un bloc de bois dur, ancien, peut-être le même bois que celui de la vraie croix, et ce tout d'une pièce d'apparence brutale avait toujours l'âme en avant comme un point. Les gens qui vont dans la vie, ayant selon le mot populaire le cœur sur la main, ne sont pas des êtres sociables parce que la société a inventé des tas de gants que l'on doit mettre solidement boutonnés quand on s'approche de ses semblables, la seule fin précisément de dissimuler ses meilleurs sentiments. Léon Blois ne dissimulait rien du tout, ni ses sympathies, ni ses antipathies. On savait donc tout de suite à quoi s'en tenir, ce qui est préférable au tâtonnement psychologique. Brute sublime, qui prétendait vivre dans un absolu religieux alors qu'il n'y avait plus autour de lui que des simulacres de religion, des faux prêtres et d'hypocrites dévots. Il aurait dû naître au Moyen-Âge où l'on comprenait encore le moine flagellant, sinon la véhémence d'un évêque guerrier. On a mis en doute jusqu'à sa propre foi, et comme croire que c'est enthousiasmé, cela devient un exercice dangereux parmi les indifférents. Voilà, donc on va arrêter là un peu Léon Blois, on va arrêter les Léon Blois, et puis je préciserai que il lui avait envoyé, je crois, une lettre, je ne sais pas si j'ai déjà dit, une lettre qui finissait par ces mots, madame, j'ai bien l'honneur de ne pas vous saluer. Voilà. Alors, après la guerre 14-18, Rachild sera décorée de la Légion d'honneur qu'elle avait déjà précédemment refusée. Albert Ballette qui dira d'elle, Rachild et moi, nous nous emboîtons cérébralement et nous sommes égaux, décède en 1935. Elle aura bien entendu sa page dans les albums de figures contemporaines du vin Mariani avec son portrait et cette légende. Les décadents n'ont pas de talent, me dit-on. Aucun ennemi. Moi, je dis qu'ils ont du génie. Car les plus épuisés se refont avec, et nous refont, avec un flacon de vin Mariani. Et il y a écrit en travers, c'est des vers libres. Voilà, et bien sûr, il y a le portrait de Rachid, le plus connu, où elle est appuyée sur sa main droite. Voilà. Dans Anatomie littéraire de Marcel Coulon, qui lui consacre en 1919 un article intitulé « L'imagination de Rachid ». Alors, c'est Anatomie littéraire, et c'est publié, je vais vous dire ça de suite, publié donc, comme je disais, Paris, Librairie des Lettres, et c'était 12 rue Séguier. Voilà, donc Marcel Coulon, qui était, je crois, magistrat. Qui était un magistrat, voilà ce qu'il nous dit. Je vois en Rachid l'écrivain de beaucoup, le plus imaginatif que le symbolisme, et révélé chez elle, pas l'ombre de difficulté pour se plier à l'esthétique de l'école, mais impossibilité évidente d'obéir à une autre loi. Si devant maître ouvrage symbolique, alors, par exemple, poème ancien et romanesque d'Henri de Régnier, ce piétinement sur place d'un génie qui, sur d'autres points, a fait du chemin, et cet impudent palud d'André Gide Vessi, qui veut qu'on la prenne pour lanterne. Nous souffrons de voir combien, malgré les efforts de l'auteur, l'élément imaginatif arrive rare, grêle, monotone, superficiel. Nous déplorons ici son trop d'abondance et de richesse qui vaudrait mieux l'univers créé par ce démurge, si le vent qui le soulève se calmait parfois. Mais la tempête y souffle toujours, et sauf l'exception sur le tard, que j'aurai soin de marquer toujours plus violemment, nous semble-t-il, le lendemain, que la veille entamée ses 30 et quelques volumes par Monsieur Vénus, qui n'est pas le premier roman de Rachid, mais qui est son premier roman qui compte. Effectivement, on en a beaucoup parlé. Vous ne croiriez pas qu'on puisse écrire quelque chose de plus imagé que ce livre tant que vous n'aurez pas lu les suivants. Prenez les uns après les autres, ce sera les plus en plus forts, ainsi que chez Ni. Voilà, il y a quelques points, je ne sais pas qui était Ni. Alors, plus fort, non, vous aviez raison, ne dépasse pas M. Vénus à ce niveau même, Rachid ne l'a pas toujours atteint. On ne rêve pas un personnage moins habituel que Raoul de Vénérande, on ne conçoit pas les actes et les sentiments plus singuliers que ceux que cette richesse et élégantissime jeune fille, l'analyse de Rachid a besoin de superlatifs, développe au cours de ses relations l'ouvrier fleuriste Jacques Silvère. Mais le paroxysme cérébral grâce auquel ce prodige initial fut enfanté se maintiendra à peu de choses près par la parution entière, et comme aucun des romans de Rachid ne ressemble par sujet à un autre, comme le milieu change chaque fois, comme la façon est toujours nouvelle, le plus étonnant de ces ouvrages, il nous semble chaque fois que c'est le dernier. Voilà, donc c'était extrait d'Anatomie littéraire de Marcel Coulon. Alors, en 1946, elle publie son dernier ouvrage, Mon étrange plaisir. Et elle meurt à Paris le 4 avril 1953, à l'âge de 93 ans. Bon, elle est un peu oubliée aujourd'hui, mais certaines de ses œuvres, donc, dont Monsieur Vénus, qui est certainement, comme je disais tout à l'heure, le plus connu et le plus vénéneux aussi, sont toujours rééditées. Alors, le théâtre va s'emparer de ses écrits pour les transposer sur scène. Alors, je me souviens avoir assisté à deux d'entre eux, La Tour d'amour avec Jacques Gamblin. Alors, ça, c'était à Paris, c'était au théâtre Essayon de Paris en 1983. Et puis, il y aura aussi Monsieur Vénus ou Le rêve fou de Louis II de Bavière. Alors, ça, c'est un peu plus récent. C'était en 1988, et le programme, enfin, tout au moins la pièce, est dédiée à Léonore Fini, dont les illustrations du programme figurent dans une réédition du roman de Rachid, donc Monsieur Vénus, dont on a beaucoup parlé. Voilà, mais je crois que je suis arrivé au terme de mon quart d'heure. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas les parapluies et à bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.